c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Là, nous sommes arrêtés, nous sommes dans le sud-ouest de l'Islande. Dès la sortie de la voiture, il y a une incroyable odeur de soufre qui prouve à quel point la croûte terrestre est fine ici, puisque cette odeur de soufre vient justement du cœur de la Terre. Autour de nous, il y a plein de montagnes enneigées, pas très très hautes, hein, toutes noires, parce qu'en fait c'est de la lave. Et le contraste entre le noir de la lave et le blanc de la neige est assez impressionnant. Et on s'avance vers un endroit où il y a de la fumée qui sort du sol. Et on va retrouver Gérard le Marquis qui va nous expliquer ce qui se passe et ce qu'on voit. Ça sent très très fort le soufre ici et le sol boue. Gérard, c'est incroyable cet endroit.
Oui, 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 absolument. C'est une zone chaude, une ancienne mine de soufre ici. Et le lobby de l'électricité aimerait bien pouvoir installer une usine géothermique ici. Mais les défenseurs de la nature s'y opposent.
Parce que l'endroit est absolument magnifique. Alors c'est difficile pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, on va essayer de leur expliquer, mais on est en fait face à un sol multicolore avec des mares qui littéralement bout. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit l'eau qui bout.
Absolument. L'eau sort très très chaude, à plus de 100 degrés. Il y a une forte odeur d'œufs pourris. C'est ce que tout le monde dit. Moi, je n'ai jamais senti d'œuf pourri dans ma vie, mais tout le monde dit ça sent l'œuf pourri.
Oui, c'est ce qu'on dit.
C'est le SO2.
Le soufre, donc.
Oui.
Alors là, c'est absolument magnifique parce qu'en plus, il fait un grand ciel bleu. Il y a donc ces montagnes de lave noire qui nous entourent, qui sont recouvertes de neige. Il fait quoi, à peu près
moins 4 environ.
Et du coup, la chaleur qui émane de la terre crée des fumées. Donc, ça fait un décor absolument splendide et je pense assez unique au monde. Finalement, quand on parle de géothermie, Gérard, c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit là, que les industriels sont allés chercher cette chaleur qui sort de la terre et qui sert à faire de l'énergie.
Absolument. Cette eau chaude, la vapeur sous pression fait tourner des turbines qui à leur tour produisent de l'électricité.
Alors, on va aller justement visiter une centrale de géothermie pas très loin d'ici, dont l'énergie est utilisée pour de multiples applications. On va reprendre la voiture, c'est à quelques kilomètres. Nous sommes devant la centrale géothermique de Schwarzinki qui appartient à l'entreprise HS Orca. On va aller visiter donc une centrale de géothermie pour voir comment ça marche. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'autour, il y a plein de sites qui se sont greffés. C'est une sorte d'économie circulaire. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Hello.
Hello. Welcome.
Thank you. Pleased to meet you.
Takk fyrir. Sömuleiðis.
Je m'appelle Þorgrímur Árnason et je suis chef de projet auprès de HS Orca.
C'est donc vous qui allez nous faire visiter cette centrale. On commence par où ?
Nous allons visiter la plus ancienne partie de l'installation et je vais vous expliquer ce qui s'y passe.
Donc on va dans la centrale directement, on vous suit et là-bas vous allez nous expliquer comment ça marche ou il vaut mieux qu'on explique ici parce que là-bas c'est trop bruyant.
Le mieux c'est de visiter l'installation et après je vous expliquerai ce que nous avons vu.
Très bien, ben on démarre par la visite. Finalement, c'est pas si bruyant que ça. Je peux vous poser une ou deux questions. Donc là, on est dans la centrale. C'est ici que vous allez puiser l'eau chaude très profond dans la terre.
Ici, c'est la première centrale qui a été inaugurée en 1978. Il y a eu d'abord une petite centrale expérimentale Et celle-ci a été construite ensuite au vu de l'expérience qu'avait donnée l'installation expérimentale.
Þetta orku verður ekki lengur í notkun en þetta var á sínum tíma 1978.
En 1978, quand elle a été inaugurée, cette centrale était la plus moderne du monde. C'était le seul endroit où l'on pouvait à la fois produire de l'électricité et produire de l'eau pour alimenter les habitations.
Og einnig þá var þetta fyrsta orkuverið í heiminum sem notaði tvífasa vökva úr söltu kerfi.
C'était la première centrale géothermique du monde à utiliser de l'eau salée venant de la terre, car en profondeur ici on trouve de l'eau salée et il a fallu résoudre un très grand nombre d'obstacles.
Aujourd'hui ces obstacles sont résolus, donc vous puisez de l'eau salée à quelle profondeur et à quelle température?
Þegar við boruðum fyrst þá má segja við
Nous avons eu une chance extraordinaire. Nous sommes tombés sur une eau à 240 degrés contenant du sel et une saumure minérale.
À quelle profondeur?
Nous étions à 600 mètres de profondeur. Mais aujourd'hui, dans les installations les plus récentes, nous pouvons aller jusqu'à 2000 mètres.
Donc on y va, on va voir la force jaillir de la terre.
Við skulum fara bara og skoða hérna úr og kraftinn í og sjá kraftinn úr holunni.
Allons voir la vapeur jaillir des entrailles de la terre.
Voiture.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Alors là, le décor est complètement lunaire. Nous sommes sur une plateforme autour de nous. Il y a cette lave, des cailloux concassés, recouverts de neige. C'est à perte de vue. Et au milieu, on a l'impression d'être dans l'introduction de l'œuvre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Il y a comme une plateforme avec dessus un cône métallique duquel sort de la vapeur d'eau à une puissance absolument impressionnante comme vous venez de l'entendre, c'est extrêmement puissant. Est-ce que vous pouvez nous dire si finalement c'est cette énergie-là que vous exploitez?
Já, þetta er akkurat orkan. Við erum þessi hola var borin 1981.
Oui, précisément, c'est cette énergie-là. Ce forage a été effectué en 1981 comme un forage expérimental. Et dans l'avenir, il y aura certainement une nouvelle centrale géothermique qui verra le jour à cet endroit.
Ce qui est intéressant autour de cette centrale géothermique, c'est qu'il y a un ressource parc qui a été construit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'industries qui se sont greffées pour créer une sorte d'économie circulaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les entreprises qui bénéficient de cette énergie et comment elles se sont organisées?
Í upphafi var þetta bara orkuversvæði, en...
Initialement, il ne s'agissait que de construire une centrale géothermique et d'alimenter en eau chaude les populations autour. Et ensuite, après que l'on a découvert l'utilisation possible des boues siliceuses blanches, il y a eu la construction et le développement du lagon bleu et des installations autour de ce lagon bleu pour soigner, entre autres, le psoriasis.
Gérard, le lagon bleu, Blue Lagoon, c'est l'un des spots touristiques ici en Islande.
Oui, absolument, c'est incontournable, essentiellement pour les touristes qui ne restent que 24 heures et qui auront vu au moins une chose, ce lagon bleu, aux couleurs effectivement extraordinaires, mais c'est un endroit très, très touristique.
On se baigne dans ces eaux chaudes issues de la géothermie et dans ces boues blanches, il paraît que c'est très bon pour la peau. Donc, en dehors de ce Blue Lagoon, quelles sont les entreprises qui se sont greffées autour de cette centrale géothermique ?
Þetta náttúrulega byrjaði með orkuverinu og vasshitanum og
D'abord, il y a eu le lagon bleu, mais pas seulement le lagon bleu. Les boues blanches ont été utilisées pour fabriquer des produits cosmétiques et c'était le commencement de ce parc d'activité.
Síðan komu náttúrulega fyrirtæki eins og
Ensuite, il y a l'entreprise Carbon Recycling International qui nous achète de l'électricité et du CO2 et qui produit à partir de là du méthanol. Le méthanol, c'est un carburant plus propre que l'essence ou le diesel.
Et le principe donc de ce parc d'activité, c'est qu'il n'y ait aucun déchet, c'est ça. C'est-à-dire que les déchets des uns servent de matière première aux autres.
Oui, exactement. C'est le concept, comme nous venons de l'expliquer au sujet de Carbon Recycling. En ce qui nous concerne aussi, puisque nous rejetons les deux tiers de l'eau que nous extrayons dans la terre.
Et au-delà donc de ces industries, à la base, cette centrale géothermique a été construite pour alimenter en eau chaude les habitants aux alentours. Vous alimentez en eau chaude combien de personnes ?
Nous produisons 190 mégawatts thermal.
Nous produisons 190 mégawatts qui sont utilisés par les entreprises et la population, et nous alimentons en eau chaude environ 25 000 personnes. Et notre production d'électricité suffirait à éclairer la moitié de l'Islande.
Quelles sont les perspectives ici pour l'avenir ?
L'avenir se présente sous de très bons auspices. Il y a encore des zones géothermiques à exploiter. En ce qui nous concerne ici, nous avons le droit de forer et de prolonger nos expérimentations.
Tac.
Merci. C'était bien.
Voyons maintenant ce qu'en disent les industriels qui consomment cette énergie propre, notamment ceux qui se sont installés récemment en Islande, attirés par l'électricité la moins chère d'Europe. Nous sommes partis à l'aube, le soleil se lève sur l'océan Arctique. Nous avons rendez-vous à 40 km de Reykjavik, la capitale, juste à côté de l'aéroport sur une ancienne base de l'OTAN. C'est là que la société britannique Verne Global a installé son premier data center en 2012. Ce centre d'hébergement de données et de serveurs informatiques est hyper sécurisé.
Já, góðan daginn. Ég heiti Styrmir Hafleðarsson og ég öryggis- og gæðastjóri hérna hjá Verne Global.
Bonjour, je m'appelle Styrmir et je suis responsable de la sécurité dans ce data center.
Qu'est-ce qui se passe ici dans ce data center ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant de sécurité ?
Un data center comme celui-ci est un endroit où nos clients peuvent soit stocker des données, soit opérer des calculs complexes.
En fait, vous êtes relié par des câbles à l'Europe et aux États-Unis.
Nous sommes reliés par des câbles sous-marins. Il y en a un qui nous relie à la Grande-Bretagne, un autre au Danemark et le troisième aux États-Unis.
Combien de temps met une donnée entre ici et les États-Unis et ici et l'Europe, par exemple?
Les données mettent 35 millisecondes pour parvenir d'Europe à l'Islande et 70 millisecondes entre l'Islande et le continent américain.
Donc là, nous sommes vraiment au cœur du data center. On voit les machines juste à côté de nous. C'est très froid. Ça fait un peu film d'action américain. Et là, nous sommes dans un hall à l'extérieur. Expliquez-nous ce qu'on voit là.
Nous sommes à l'extérieur de la salle des machines, à l'intérieur d'un hangar. Comme vous le voyez, il fait froid ici, car nous utilisons les basses températures extérieures pour refroidir l'ensemble.
Oui,
dans les data centers, on estime généralement que pour une watt utilisée pour faire marcher les machines, correspond une watt pour refroidir le matériel. Ici, on fait une grosse économie d'énergie puisque le refroidissement est naturel, il provient de l'air extérieur.
De quelle proportion est cette économie?
Environ 50% d'économie.
Donc c'est une économie d'énergie et c'est une économie de coût aussi, j'imagine.
Nous faisons des économies d'énergie considérables, aussi bien en ce qui concerne les bâtiments eux-mêmes que pour nos clients.
Et est-ce qu'il peut faire trop froid? Parce que le climat peut être rude ici en Islande.
Il faut contrôler soigneusement les températures, c'est-à-dire, lorsqu'il fait trop froid à l'extérieur, faire venir moins d'air froid et utiliser la chaleur produite par les machines pour obtenir la température satisfaisante.
On continue la visite ?
Pas demain, vraiment.
Et ce qui est important, j'imagine, au-delà des capacités de refroidissement liées au climat du pays, c'est aussi l'énergie que vous avez ici. Donc c'est une énergie qui est 100% propre. C'est quoi, essentiellement de la géothermie ?
L'Islande est le seul pays au monde où on peut garantir que l'électricité utilisée est à 100% renouvelable.
C'est de la géothermie ou de l'hydroélectricité ici?
Notre alimentation principale en électricité est d'origine hydroélectrique, mais nous avons aussi une source d'électricité additionnelle en cas de problème qui, elle, est d'origine géothermique.
Est-ce que c'est un argument d'être approvisionné 100% en énergie renouvelable dans le contexte des changements climatiques? Est-ce que ça intéresse, par exemple, vos clients qui font des bilans carbone?
L'Union européenne a des exigences grandissantes en ce qui concerne le bilan carbone, ce qui rend pour les entreprises leur venue ici tout à fait compétitive et attractive.
Est-ce que vous savez quelle est la part de l'énergie consommée par les data centers dans le monde ?
Non, je ne sais pas, mais je sais que ce data center est le 7e plus gros consommateur d'électricité en Islande.
Il y a beaucoup de data centers qui s'installent en Islande?
Nous sommes les premiers, mais je sais aussi qu'il y a d'autres entreprises qui sont intéressées par le fait de s'installer ici.
Est-ce qu'il y a une demande forte de la part de vos clients qui vous inciterait du coup à agrandir votre installation ici ?
Oui, il y a cette demande. Bientôt, nous aurons rempli tout à fait l'espace disponible et il faudra s'agrandir.
Merci beaucoup pour la visite. On vous laisse travailler.
Merci
pour votre venue
et vous êtes les bienvenus.
Tac.
Là, nous sommes dans un immeuble tout neuf face à une vue magnifique. On voit l'océan Arctique juste au large. On domine Reykjavik. On est en haut de l'immeuble de Promote Iceland, qui est donc l'agence qui s'occupe de faire la promotion de l'Islande. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Þórður Hilmarsson et je suis directeur des investissements à l'agence de promotion de l'Islande.
Alors si on se concentre sur l'énergie, quels sont les atouts de l'Islande ?
L'Islande a de nombreux atouts. Elle peut proposer aux investisseurs des investissements à long terme sur 15-20 ans, de l'électricité à des prix compétitifs, de l'eau chaude, du dioxyde de carbone, de la vapeur et même de l'eau chaude de mer.
Et quand vous dites des prix compétitifs, produire de l'énergie en Islande, je crois que ça coûte deux fois moins cher qu'en Europe.
C'est vraisemblable, bien qu'il soit difficile de comparer parce que le prix de l'électricité n'est pas le même dans tous les pays. Mais ce qui importe énormément également, c'est que nous pouvons proposer des contrats sur une longue période, alors que ailleurs dans le monde, le prix de l'électricité fluctue considérablement.
Alors que vous, le prix est stable. Alors, il y a un vrai savoir-faire en Islande concernant la géothermie, parce que ce pays est situé sur ce qu'on appelle une zone chaude. Vous pouvez nous expliquer cette situation géographique très particulière ?
L'Islande est située sur la dorsale nord-atlantique, là où le continent américain et le continent européen se séparent. Il y a donc une activité volcanique considérable et comme il y a de l'eau en quantité dans les entrailles de la Terre, elle produit de la vapeur. Il sort une eau chaude qu'il est possible d'utiliser pour produire de l'électricité et cette électricité à son tour peut permettre un grand nombre d'activités industrielles.
En 2008, vous avez subi une crise économique forte suite à la crise financière mondiale. Vous avez été vraiment extrêmement impacté. Aujourd'hui, vous vous relancez finalement dans une logique capitaliste et libérale en attirant tous ces investisseurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de leçon tirée du passé, même si ce ne sont pas les mêmes produits, hein. Là, on parle d'industrie et puis de produits financiers.
Bien sûr, l'Islande fait partie du système capitaliste mondial. Mais il y a une très grande différence entre l'avant 2008 et la situation aujourd'hui. Ce que nous produisons a une véritable valeur dans le domaine de l'énergie ou de la pêche. Nous ne sommes pas une place financière, nous ne le sommes plus du tout. Notre but, c'est un développement fondé sur l'énergie, l'expertise et l'éducation.
Fjell og smalinn
L'Islande est donc une terre d'expérimentation pour la géothermie, qui est aujourd'hui la quatrième source d'énergie renouvelable dans le monde après l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien. Creusée toujours plus profond, avec des technologies de pointe, en 2009, les ingénieurs de la centrale de Krafla ont atteint à plus de 2000 mètres de profondeur le magma, la roche en fusion du centre de la Terre. Ils ont réussi à capter une eau à plus de 440 degrés. Une prouesse technologique qui pourrait ouvrir une nouvelle ère dans l'exploitation des ressources géothermiques du monde. Merci à Gérard Lemarquis pour les traductions et à François Porcheron pour la captation, la réalisation et la mise en onde de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure. Alors, ce que nous sommes en train de vivre est absolument incroyable, parce qu'en fait, nous avons attendu une heure dans le froid. On a commencé à voir ce qui ressemblait à des nuages devant les étoiles. Et au fur et à mesure, ça s'est éclairé, c'est devenu vert. François, c'est rare.
Ben, c'est rare et surtout, c'est une grande chance, vu qu'on était là en reportage que 3 jours. C'est une chance totalement inespérée, parce qu'il y a des gens qui viennent de nombreuses fois en Islande ou en Scandinavie et qui n'ont pas la chance de voir ça. Et c'est vraiment très émouvant comme spectacle, parce que c'est tellement rempli d'imaginaire, de rêves, d'histoires, de contes. Et là, c'est là. C'est fantastique.
Vous pourrez voir les images sur le site de RFI, www.rfi.fr, parce qu'évidemment, c'est un peu frustrant à la radio. Voilà l'image avec laquelle nous partirons de l'Islande, les aurores boréales au-dessus de Reykjavik. Musique du monde.